Elles dardaient leurs regards sur le vide depuis tant de siècles.
« Bien avant moi, »
pensait-il. Elles continueraient de le faire bien après lui. Si seulement les langues de pierre pouvaient parler.
Quelle bouffonnerie !
Il se pencha par-dessus le rempart. La mer s'écrasait, furieuse, tout en bas. La rugosité du basalte lui meurtrissait les doigts.
Des gargouilles qui parlent et des prophéties dans le ciel. Tellement vieux. Voilà, je retombe en enfance. Pas plus de jugeote qu'un marmot.
En lui retirant la force et la santé, l'âge l'avait-il également privé de la science acquise par toute une vie d'études ? Être maître, avoir obtenu sa chaîne après des années d'apprentissage dans la grande citadelle de Villevieille et en arriver là, la cervelle aussi farcie de superstitions que le plus ignare des rustres, quelle déchéance ! Et pourtant, pourtant, la comète à présent brûlait même de jour, tandis que de Mondragon, derrière le château, les bourrasques exhalaient des vapeurs grisâtres. Et un corbeau blanc, pas plus tard que la veille, était arrivé de la citadelle, annonçait la fin de l'été. Nouvelle qui, pour avoir été dès longtemps pressentie, prévue, n'en était pas moins effrayante. Présage. Présage partout. Trop nombreux pour qu'on les récuse. Il avait envie de hurler. Que signifie tout cela ?
Maître, nous avons de la visite,
chuchota Pylos, en homme qui répugne à troubler de solennelles méditations. S'il avait deviné quelle baliverne occupait Cresson, il aurait glapi.
La princesse aimerait voir le corbeau blanc.
Avec son sens aigu des convenances, il l'appelait désormais princesse, puisqu'aussi bien le seigneur son père était devenu roi. Roi certes d'un îlot battu des vents, mais roi tout de même.
S'en fout la compagne.
Le vieillard se détourna de l'aube en se cramponnant d'une main à la vouivre pour conserver l'équilibre.
Ramène-moi à mon fauteuil avant de les introduire.
Agrippé au bras de Pylos, il regagna la pièce. Preste et vif dans sa jeunesse, il avait à près de 80 ans des faiblesses de jambes et le pied instable. Il s'était 2 ans plus tôt brisé la hanche en tombant, et la fracture ne s'était pas bien ressoudée. Et il n'avait pas été dupe lorsque, à l'occasion de sa maladie l'année précédente, juste avant que Lord Stannis ne coupe l'île du monde, Villevieille avait envoyé Pylos le seconder, prétendument. Attendre en fait sa mort pour le remplacer. Mais il n'en avait cure. Il fallait bien quelqu'un pour lui succéder. Il se laissa installer derrière ses livres et ses paperasses.
Introduis-la. Il est malséant de faire attendre une dame.
Du bout des doigts, il lui signifia d'avoir à se hâter. Mais la débilité de son geste indiquait assez qu'il n'était même plus capable de hâter quiconque. Sa chair était toute ridée, toute tavelée, sa peau si fine qui transparaissait le réseau des veines, et l'os comme à nu. Et comme elle tremblait, ses mains, qu'il se rappelait naguère si sûres, si déliées. Pylos reparut. Aussi timide que jamais, la fillette l'accompagnait. De son étrange démarche en crabe mi-traînard, mi-sautillant, son fou la suivait. Un aume dérisoire le coiffait, taillé dans un vieux seau d'étain ceint d'une couronne, où étaient plantés des andouillers surchargés de clarines. Chacun de ses pas trébuchants faisait intinabuler celle-ci en un concert hétéroclite de ding-ding-ding-drelanding, ding-ding-drelandong-dong.
« Qui nous vient de si bonne heure, Pylos ?»
affecta de demander Cresson.
« Moi et Bariole, maître. »
Des yeux d'un bleu sans malice clignotaient vers lui. La pauvre enfant était tout, hélas, sauf jolie. Du seigneur son père, elle tenait la ganache carrée, de dame sa mère les consternantes feuilles de chou, et de son propre cru, comme pour achever de se défigurer, les stigmates de la léprose qui avait failli la tuer au berceau. Sur un